Bonjour à chacun, chacune. Ça, vous n'avez pas... Un peu. Voilà. Une des questions qui préoccupe beaucoup de personnes ces dernières années, ces derniers mois, c'est leur corps. Leur corps est touché par des virus, des maladies. Et on en arrive à se demander si finalement ce corps a vraiment quelque chose de bien. La Bible nous rappelle une chose importante. Et ce matin, on va la revisiter. Nous sommes des créatures, la Bible dit, merveilleuse. Alors, on n'est pas devant un miroir à se sourire et à se parer à dire « Miroir, dis-moi qui est la plus belle » pour faire rapport à quelque chose qu'on a tous appris. Mais regardez bien ce que dit le psaume 139. Ceux qui sont là, s'ils veulent mieux voir, ça serait peut-être bien qu'ils rejoignent le groupe ici, parce que j'ai vu que d'ici, vous avez un peu de mal à suivre. Je te célèbre, car j'ai été fait de façon merveilleuse. Tes œuvres sont étonnantes, je le sais bien. Psaume 139, verset 14. Regardez bien, je relis. Je te célèbre, car j'ai été fait de façon merveilleuse. L'emphase, elle est où? Elle n'est pas sur la personne. Mais elle est sur son créateur. C'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a créé. C'est lui qui a tiré, on va voir ce matin, tous les tissus de notre corps. Et nous sommes des créatures merveilleuses. Quand on voit l'homme agir, on se demande de quoi il peut bien être fait. Quand un chrétien tombe malade, que son corps se dégrade, il s'interroge s'il est vraiment une créature merveilleuse. Quand un chrétien meurt prématurément, ceux qui restent s'interrogent. Quand on trouve que le bébé que l'on porte est anormal aux yeux des gens, on ne s'interroge pas, on l'élimine. Quand une personne âgée souffre et selon les termes du monde devient inutile, alors on ne se questionne pas, on l'élimine. Mais Dieu a créé l'homme, la Bible dit, à son image. Des hommes et des femmes capables d'avoir cet émetteur qui va leur parler. Et il a fait d'eux des créatures merveilleuses. Si c'est à son image, alors ça ne peut être que bien. Si c'est pas à son image, forcément, si je n'ai pas l'image de Dieu. Hier, l'orateur de la soirée à Bretagne disait que et que ceci commençait à blâmer Dieu. Il disait, écoutez, si vous ne le connaissez pas ou s'il n'existe pas, alors ne le blâmez pas. On ne peut pas blâmer ce qui n'existe pas. Regardez Genèse chapitre 1, verset 26. Revenons à l'origine. Genèse chapitre 1, verset 26. Création. On va regarder un peu de manière microscopique ce matin ce que Dieu fait. Parce que de temps en temps, on aime bien voir le grand panorama et de temps en temps, il est bon de prendre un microscope et de dire « Regarde, regarde dedans ». Puis Dieu dit, Genèse 1, 26, le tout premier livre de l'Écriture, verset 26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il domine, pas qu'il détruise, mais qu'il entretienne. Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. C'est pas ce que nous enseigne l'école, mes amis. Nous sommes issus d'un Big Bang, d'une évolution d'un singe, mais nos cousins, mes amis, on les visite encore aux zoos de Vincennes. Alors je ne sais pas s'ils aspirent sortir de leur cage un jour, mais en tout cas, ils n'ont pas complètement réussi. Ils se sont arrêtés en processus. Dieu a créé l'homme. C'est lui le créateur. Et il l'a fait à son image. Est-ce qu'un Dieu aurait voulu créer quelque chose de moche? Quelque chose qui ne tienne pas debout? Quelque chose qui soit, qui finalement n'ait aucun aboutissement? Non. Dieu a créé quelque chose d'extraordinaire. Cela était bon. Le deuxième jour de la création. Genèse, chapitre 1, verset 10. Dieu appela le sec, terre, il appela l'amas de l'eau, mer. Dieu vit que cela était bon. Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la terre, il a créé les cieux, il a créé la terre, il a la mer, il a dit, c'est bien. Je suis satisfait. Vous savez ce qui est intéressant quand on va à l'école et que le soir on est à la maison, on fait nos devoirs et souvent les parents viennent et disent « Tu dois faire de ton mieux ». Souvent on fait les devoirs, moi je me rappelle faire mes devoirs et dire « Bon voilà, ça c'est fait ». Et mon papa de venir et de dire « Jean-Claude, tu as fait, mais tu n'as pas appris. Tu as fait, mais tu n'as pas fait ton mieux. Alors rouvre ton cahier ». Et Dieu n'a pas eu besoin de rouvrir son cahier. Le troisième jour, verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Et regardez bien, Dieu vit que cela était bon. Ha ! C'est incroyable de voir comment Dieu s'arrête et contemple ce qu'il est en train de faire en disant « Ha ! C'est bien. Je suis content. Ça répond à ce que je veux. » Alors, le quatrième jour, Genèse 1, 18, il a créé les astres pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. À chaque grosse étape, Dieu s'arrête. Regarde, examine. Et Dieu dit que c'était bon. Le cinquième jour, verset 24. Que la terre produise des animaux vivants selon toute espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Alors, le sixième jour, quand Dieu regarde l'ensemble de la création. Regardez, Genèse 1, 31. Alors Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. Cela était très bon. Ha ! Mes amis, ce qui est extraordinaire, c'est de savoir ce que Dieu fait n'est pas simplement bien, pas ça, vous savez maintenant on note je crois ABC, hein, mais on peut mettre un grand A à Dieu. Il vit que cela était très bon, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le sixième jour. Il est bon de regarder la création de Dieu, n'est-ce pas? De se dire, pourquoi un Dieu a créé le monde. Alors beaucoup partent sur l'idée que oui, bon, peut-être, Dieu a créé le monde, mais après il ne s'y est plus intéressé. qu'il ne l'a en tout cas pas protégé, qu'il ne l'a pas racheté. Alors on a besoin de revenir. Vous vous rappelez, mon ami est passé il y a 3 semaines et avait ouvert ce livre d'Ézéchiel. Un livre qu'une sœur en Christ, qui est un peu nouvelle dans la lecture, m'a dit l'autre jour, j'ai voulu commencer à lire Ézéchiel et ouh, c'est dur. Alors je vais conseiller de lire d'autres textes pour l'instant. Et dans Ézéchiel 37, nous sommes dans le laboratoire de Dieu. Là où Dieu imagine la création. Dieu est en train de montrer devant nous la création humaine. Et voilà ce qu'il dit au verset 37, Ézéchiel 37, verset 7, pardon. Il dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, voici, leur vint des nerfs, la chair crue, la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait en eux point d'esprit. Il me dit, prophétise! Et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et leur esprit rentra en eux, et ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Vous imaginez, au microscope, voir la naissance d'un enfant. Ici, ce sont des morts qui reprennent vie. Mais imaginez le processus à l'intérieur du ventre de la maman, où Dieu chaque jour fait croître. Chaque jour, chaque millimètre. Et on décide sur cette terre et dans notre pays de France de rejeter 30 000 créations de Dieu par an. 30 000. Mais il est interdit de condamner quelqu'un à mort. Mais nous éliminons 30 000 créations de Dieu parce que ce sont des créations non voulues. Ce sont des créations accidentelles. Ce sont des créations qui sont certainement anormales. Des créations qui sont à risque. On rejette Dieu de cette façon. Regardez là. Je regardais, voici les nerfs, la chair, la peau. C'est Dieu qui crée. Dans le sein de ma mère, je te connais dès le sein de ma mère, alors que tu n'étais encore qu'une masse informe. Moi, j'aimerais que on explique ça aux jeunes, avant de les aventurer à avoir des relations garçon-fille. Et de dire aux garçons, mon gars, si tu te plaît à faire de la création, sache que c'est pas toi qui crée. Tu n'es que le donateur de ce que Dieu va créer. Et à la fille, jeune fille, rappelle-toi, si quelque chose prend vie en toi, c'est Dieu qui crée. Et c'est pas donné à tout le monde. Alors ne rejette pas la création que Dieu donne. C'est Dieu qui est le père de cet enfant. C'est pas le garçon qui est là, qui t'a fait violence, qui t'a forcé. Mais c'est Dieu, un Dieu créateur, un Dieu protecteur, un Dieu rédempteur, celui qui rachète. Ah, que cet être que nous ne considérons comme rien, cette chose, un embryon, cette chose, un vieillard, il sert plus à rien. Cette chose qu'on appelle les êtres anormaux a été créée par Dieu. Je ne sais pas si j'avais l'occasion d'être dans les cliniques au moment de faire les avortements, si j'avais l'occasion de dire ça aux jeunes filles, si ça changerait quelque chose. Vivant. Vous avez vu ce qui s'est passé dans Ézéchiel 37 ? L'esprit est venu à souffler et ils sont devenus des êtres vivants. On reproduit Genèse chapitre 2 verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans le souffle de Dieu, sans la vie de Dieu, l'homme est mort. Beaucoup de cadavres marchent autour de nous, mes amis. Ils ont une existence morte, sans Dieu. Et Dieu veut leur souffler son esprit. Romains chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, habite, il ne nous couvre pas. Ça, c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il habite en nous, il réside en nous. Nous en sommes la résidence permanente, pas celle du dimanche. Vous savez, beaucoup de gens, enfin beaucoup, une certaine catégorie de personnes qui ont les moyens ont leur résidence secondaire. Ils y partent le vendredi soir et rentrent le dimanche soir. Résidence où, disent-ils, ils se reposent, ils passent leur week-end tranquille. Et moi, j'ai l'impression que des fois, on considère que le Saint-Esprit, c'est un peu ça. C'est la résidence secondaire. Il est là que par moment. Dieu en a fait, nous sommes sa résidence permanente, du lundi au dimanche. Il est en nous avant qu'on vienne au 177 avenue Henri Barbusse. Il ne réside pas là dans une petite boîte où il y a une lumière rouge qui s'allume. Il est en nous. Dieu nous l'a donné. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, regardez bien ce qui est écrit là, il ne lui appartient pas. Il peut avoir la connaissance de Dieu, l'idée de Dieu. Le diable l'a, l'idée de Dieu. Les démons dans Jacques. Mais ça ne change rien. Ils sont quand même morts. Regardez le psaume 33. Si vous voulez tourner les pages de vos Bibles, pour ceux qui ont du mal à lire, jusque-là. Psaume 33, verset 1. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le avec la luth à 10 cordes, chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments, vos voix, car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Quelles que soient les circonstances. On le chante ça, on l'a chanté vendredi, hein. En dépit des circonstances. Il aime la justice, la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre, les cieux. Regardez bien, verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer et les met dans des réservoirs pour les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit, la chose arrive, il ordonne, elles existent. Il ordonne, il fait plus vite que la lumière. Mais les choses arrivent. Il a créé la terre de cette façon, mes amis. Il nous crée de la même façon. Il ordonne, et elle existe. Verset 10, l'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur, de génération en génération. C'est ce que c'est le projet du cœur de Dieu? C'est le livre de Timothée qui le dit, que tout homme soit sauvé. Qu'il devienne le père de tous les habitants de la terre, des 6 milliards et quelques. Vous imaginez ça? Ça, c'est un plan. Et il a mis tout en œuvre pour ça. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux et il voit tous les fils de l'homme. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. C'est là le Dieu créateur, le Dieu protecteur. Regardez bien, lui qui forme leur cœur à tous. qui est attentif à toutes leurs actions. Il n'y a pas une action, un endroit où je peux me cacher. Il n'y a pas un endroit. Oh là, Dieu n'est pas. Dieu ne me voit pas. J'ai éteint la lumière, tout est sombre. Vous savez que Dieu, il n'a pas besoin de l'infrarouge pour nous voir. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre les héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, verset 18 encore, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Verset 20, il est notre secours et notre bouclier. Mes amis, ça fait pas du bien de se rappeler ces choses? Pour ceux qui souffrent, pour ceux qui se disent, mais pétard, quand est-ce que Dieu va intervenir? Jusqu'à quand, Seigneur, me lâcheras-tu? Seigneur dit, mais je suis là. Je prends soin de toi. Je t'accompagne. Il n'y a pas un instant, même quand tu souffres, même quand tu es sur la table là, même quand tu es au creux de ton lit, je te tiens par la main. Et je t'aime. Il est notre secours, car notre cœur met en lui sa joie. Car nous avons confiance en son sein. On a confiance? Pas tout le temps, hein. Soyons honnêtes. Quand tout va mal, quand on est dans la souffrance, quand on voit plus le bout du tunnel, on a confiance? Pour une fois dans notre vie, soyons honnêtes. Non. Qu'est-ce que je vais faire, moi, pour me sortir de là? Et vous savez quoi? Quand on voit que tous nos efforts, d'un seul coup, on se dit, ah oui, c'est vrai, il y a Dieu quelque part. Il est où? Ah ouais. Dieu, écoute, je suis dans la mouise. J'ai tout essayé, il n'y a rien qui marche. Hein? T'as une solution, toi? Ah bon? Eh ben, tu vas me la montrer, alors. Et c'est intéressant, là. On commence à recommuniquer avec notre Dieu. Et pendant tout ce temps, il est au-dessus, il fait, bon, tu m'appelles quand tu veux, hein. Non? L'Éternel, son œil est sur ceux qui le craignent. Il est attentif à toutes leurs actions. Mes amis, beaucoup d'amis parmi nous souffrent. Beaucoup d'amis au milieu de nous sont dans des situations inextricables, semble-t-il. Mais Dieu a la solution. Dieu sait pourquoi nous devons passer par cette vallée de l'ombre de la mort. Dieu a une raison pour cela. Et Dieu ne nous lâche pas. Le corps humain est composé de milliards de cellules. Certains disent 75, d'autres 100 milliards. Comment peuvent-elles tenir ensemble? Dieu a mis en nous une colle. Une protéine qui agit merveilleusement et tient le tout ensemble et qui permet à chaque élément de fonctionner selon son dessein. Comprenez ce que je dis là? Notre corps, comme on voit là, c'est rempli d'eau et de cellules. Et on se pose jamais la question comment ça fait pour tenir debout, pour tenir ensemble. Alors quand on regarde dedans, on se dit, doit bien y avoir un truc. C'est pas l'homme, c'est pas sa force, c'est pas sa puissance. Alors c'est quoi? Alors son nom c'est l'aménime. Les scientifiques l'appellent comme ça. Et alors? Alors c'est une toute petite cellule qui tient tout notre corps ensemble. C'est la superglue, vous savez, celle avec laquelle on pend les gens au plafond. Je voudrais pas faire le test, moi, en tout cas. J'ai confiance en Dieu, mais pas dans la colle. Mais Dieu, il a une colle qui est toute puissante et qui me tient tout ensemble. Et alors, mes amis, quand on regarde de plus près, j'aimerais bien que ceux qui soient là voient bien l'image qui va apparaître là. Quand on regarde au microscope, dans les cellules humaines, on y découvre cette cellule qui tient tous les hommes en entier. Parce que Dieu a créé quelque chose de parfait. C'est ça. La minime, c'est une cellule en forme de croix à l'intérieur de l'homme. Vous pouvez aller voir sur le site, hein. C'est un site scientifique. Et même les non-chrétiens le montrent. Alors ils argumentent sur le fait que peut-être c'est pas forcément une croix, alors peut-être. Mais voilà, à l'intérieur, la cellule qui tient le tout dedans, c'est la croix de Jésus. C'est l'empreinte de Dieu dans l'homme. Parce que Dieu l'aime. Parce que Dieu veut être son père. C'est sa marque, c'est la marque génitale, l'ADN. Quand on recherche l'ADN, la paternité, il y en a, et c'est surtout pour, hein, pour les richesses, pour l'héritage. Ah, moi, j'ai bien connu ton père d'ailleurs. On a fait des trucs ensemble et... Cette cellule magique qui tient l'homme debout, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu. C'est Dieu le créateur de l'homme. Et on le rejette. Et on ne veut pas de cette colle, on ne veut pas de cette cellule. On veut se libérer. N'est-ce pas? On veut annuler l'effet. Mais moi, ni Dieu ni maître, j'appartiens à moi-même. Je suis bien tout seul. Hein? Regardez, vue de près. Voilà la cellule qui tient toutes les autres cellules. Regardez. C'est intéressant, non? Au microscope. De savoir que Dieu est un Dieu tellement bon. Et j'aimerais dire quelque chose, c'est pas parce que, par le fait que nous sommes des êtres finis, qu'on va prouver la grandeur de Dieu. Mais ce qui est extraordinaire, et nous allons le revoir tout à l'heure, c'est que quand on regarde la création de Dieu, alors on peut voir Dieu. Mais si pour nous, Dieu n'a aucun lien, si pour nous, Dieu n'existe pas, si pour nous, le fait que j'appartiens à moi-même ou je me suis créé moi-même, alors j'élimine toutes ces choses et je nie la présence de Dieu, alors il y a forcément un problème. Regardez Colossiens chapitre 1, versets 15 à 20. Jésus-Christ. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose subsiste. L'homme, en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Ça vaut la peine, Colossiens 1, versets 15 à 20. Ça vaut la peine de considérer que nous sommes ces êtres que Dieu a créés. Pour avoir une relation avec nous. Pour pouvoir communiquer avec nous. Pour pouvoir nous montrer son amour. Dieu a mis génétiquement ce qui était nécessaire. Un récepteur. Vous savez que s'il était l'émetteur et que nous n'étions pas les récepteurs, alors... Mais nous sommes les réceptacles de son amour. Il nous donne en abondance, bien plus qu'on croit, n'est-ce pas? Seigneur, j'ai rien. Seigneur, c'est quand la dernière fois que tu m'as donné quelque chose? Oui, c'est vrai, tu me donnes la vie. Oui, c'est vrai, tu me donnes un toit. Moi, j'ai... De temps en temps, je rentre dans mon bureau et là, je prends le temps d'écouter Dieu. Et des fois, vous savez, ça fait du bien de vider son cœur dans le secret. De dire, Seigneur, j'en ai plein la casquette. Seigneur, je suis énervé, là. Seigneur, j'ai l'impression que j'entends plus rien, là, où il y a du brouillage. Et le Seigneur de dire, mais c'est pas moi qui t'aime. C'est pas moi qui te conduis. C'est pas moi finalement qui fais toutes choses à merveille. En mon temps. C'est pas forcément dans ton temps, Jean-Claude. Mais dans le mien. Vous n'avez pas ce genre de conversation avec Dieu? Alors c'est pas magique, hein, il se passe rien, les enfants ils sont pas en train de se dire, tiens papa il est en train de s'accrocher au lustre. Mais dans le calme, dans le secret du cœur, Dieu parle et il m'a laissé sa parole. Et il me rappelle jour après jour, Jean-Claude je t'aime. Tu as des problèmes, tu as des difficultés, mais d'autres en ont. Mais une chose que je veux te rassurer, c'est que je suis avec toi. Et depuis que tu es devenu mon fils, je t'ai fait une promesse de ne jamais t'abandonner. Alors, frères et sœurs, on a besoin de se rappeler ces choses. Que c'est Christ qui est au-dessus de toutes choses, c'est pas nous. C'est Christ qui est la raison de tout. Le commencement et la fin, il dira dans l'Apocalypse, l'alpha et l'oméga. Celui qui permet que ce gouffre qui nous sépare de Dieu soit rempli par la croix de Jésus. Déjà vu ce dessin? On pourrait dire le péché se trouve de ce côté, la vie de Dieu se trouve de ce côté. C'est le seul moyen de passer. C'est ça qui colle les êtres humains. Ah! C'est bien de se le rappeler, non? Tout ce qui colle nos cellules se trouve en Jésus-Christ. De haut en bas, de droite à gauche. Alors, mes amis, pourquoi se rappeler ces choses? Pourquoi se rappeler que nous sommes des êtres merveilleux? Des êtres compliqués, certes, complexes et compliqués. Si l'on pouvait l'explorer dans tous ses détails, on verrait la main de Dieu. Notre finitude, le fait que nous sommes des êtres finis et appelés à disparaître, ne prouve pas l'existence de Dieu. Il n'en a pas besoin. Quand on considère sa création tout entière, on ne peut arriver qu'à la conclusion de Dieu. Elle est très bonne. Vous savez, les enfants, quand vous leur donnez un mets qu'ils n'apprécient pas, la réflexion, c'est pas « c'est différent, j'apprécie pas ». Non, ils disent quoi? Ils disent « c'est pas bon ». C'est pas bon. Ils disent pas ça, les vôtres? C'est pas que c'est pas bon, c'est que c'est pas à leur goût. Et souvent, Dieu n'est pas à notre goût. On pense attendre trop, on voudrait que Dieu intervienne plus vite, on voudrait que Dieu fasse les choses plus vite, on voudrait que Dieu guérisse, on voudrait que Dieu change tellement vite. Quand on lit l'évangile de Marc, on a l'impression que Dieu agit de cette façon, hein, parce que Pierre, il était tellement pressé que « et alors Dieu, fille, et alors ?» Et on se dit « mais vous, Pierre, attends, ralentis !» Et pourtant, Dieu est sur toute la planète, mes amis, présent à côté de toute personne. Nos maladies, nos problèmes, nos incompréhensions ne remettent pas en cause la grandeur de Dieu, ni sa bonté. Dans Romains chapitre 1, verset 20, il est dit « en effet ». Et quand Paul dit « en effet », ça veut dire qu'il a pris le temps avant de démontrer sa théorie. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, un des ouvrages merveilleux de Dieu, c'est l'homme, créé à son image. Ils sont donc inexcusables. Et quand on lit la suite, parce qu'ils ont rejeté Dieu, parce qu'ils ne veulent pas considérer dans sa grandeur l'homme et la création humaine. Dieu regarde. Vous rappelez-vous l'étoile découverte que je vous ai montrée la semaine dernière? Il y a quelques années, étoile de forme cubique, ressemblant à ce que Dieu décrit dans l'Apocalypse. Cette place cubique que Dieu est en train de préparer, et que certains ont vu au travers de cette image, l'image de ce que Dieu était en train de nous rappeler. Peut-être Dieu nous fait juste un clin d'œil, mais je doute que ça soit quelque chose qui n'existe pas. Je veux croire que Dieu a quelque part là, en réserve dans les cieux, cette place qu'il va, où il va nous prendre avec lui. Mais derrière cette image, cette étoile qui se trouve tellement loin, Hubble, ce grand télescope, en a renvoyé une autre. Et c'est donc, quand je cite Hubble, ça veut dire que c'est pas un site chrétien. C'est pas des chrétiens fanatiques. Ah, oh, j'ai vu un truc, c'est formidable, c'est forcément Dieu là. Parce que quand c'est les chrétiens qui découvrent des trucs, on leur dit, mais oui, restez chez vous, prenez du Doliprane, ça va vous passer. Mais Hubble, c'est tout sauf des chrétiens. C'est la NASA qui est derrière, et la NASA, même si elle est américaine, tous les Américains ne sont pas croyants. J'en connais. On va regarder, à la fin de ce message, ces deux diapositives. Tout simplement en disant, pour rappeler deux choses. Que Dieu nous prépare cette place, qu'on peut trouver dans l'Apocalypse. Hein. Il l'a montré à Jean, pas pour lui dire, hey, je te montre un truc, mais t'en verras jamais la couleur. Dieu est fidèle. Ce qu'il fait, ce qu'il dit, il le fait, ce qu'il fait, il le dit. Et puis, l'autre qu'on a vu aujourd'hui, c'est que nous avons un Dieu protecteur. Un Dieu qui prend soin de nous. Vous vous rappelez cette image? Regardez la forme des autres étoiles. Et cette étoile est cubique. 2208 km en cube. C'est la place, cette nouvelle Jérusalem que Dieu est en train de nous préparer. Elle est quelque part dans l'espace. Dieu a dit, quand cette place sera prête, je viendrai vous y chercher pour que vous soyez là-bas. Ah! Est-ce qu'on est prêt à l'embarquement? Est-ce qu'il nous manque encore des choses? Attends, je vais aller faire les dernières courses. C'est pas les vacances, mes amis. On n'emmènera même pas de valise. Grand soulagement, on n'a pas besoin des barres de toit, de la remorque et tout. Hein, on part. Wouh! Instantané. Il n'y a même pas la queue. On n'a pas besoin de montrer le visa et tout. Hop! Pssst. C'est ce que la Bible dit. C'est pas moi qui l'invente. Hein. C'est ce que la Bible dit. En un clin d'œil. Ha. Et alors, celle qui se trouve encore plus loin. Et donc, c'est une image, je rappelle, projetée par la NASA, qui a été envoyée par les astronautes. Hein. Et ils avaient pas, ils n'étaient pas accrochés au lustre non plus. Regardez l'étoile. Au fond, c'est une étoile en forme de croix. Dieu garde un œil sur toute la planète. Et Dieu nous rappelle que ce n'est uniquement en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Qu'il est le commencement et qu'il est la fin. Et que si nous considérons cet être merveilleux que nous sommes, Dieu a déjà préparé la place pour que son peuple puisse venir. Et là, il nous rappelle, je veille sur toi. Je serai avec toi chaque jour. Alors, mes amis, on a du problème avec notre humanité. Elle décline, elle est malade, elle souffre. Mais un jour, elle sera délivrée de toutes ces choses pour être dans la grandeur de Dieu, dans la gloire de Dieu. Ça vaut la peine de s'en rappeler, n'est-ce pas? Ce corps va disparaître. Il est merveilleux, il y a à l'intérieur quelque chose qui la tient debout. Mais un jour, nous serons débarrassés de toutes ces maladies, tous ces virus. La mort n'existera même plus. Les larmes auront disparu. Plus de cris. Mais une place extraordinaire dans la présence de Dieu. Mais là, j'aimerais dire, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne peuvent pas y aller. ne peuvent pas se dire « Oh, Dieu est bon !» Et on ira tous au paradis. C'est un leurre, c'est un mensonge. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu veut, je l'ai dit tout à l'heure, que tout homme soit sauvé. Mais tout homme ne sera pas sauvé. Parce qu'il a laissé le libre arbitre. Et peut-être aujourd'hui vous dites, ouais, tout ça, c'est bien joli. Mais une fois qu'on a quitté cette terre, mes amis, vient le jugement. Une fois qu'on a quitté la terre, on va pouvoir regretter. Je l'ai dit la semaine dernière, regret. Marqué sur les tombes, hein. Regret, ah oui, certainement. Mais pour le chrétien, il n'y a pas de regret. Dieu est un Dieu grand, et vous êtes, Dieu vous a créé de manière merveilleuse. Alors maintenant, la question que je pose aujourd'hui, est-ce que vous appartenez au Créateur? Est-ce que vous l'avez reconnu comme Créateur, lui? Celui qui vous aime, celui qui prend soin, celui qui s'occupe de vous? Ou pensez-vous, parce qu'il y a tellement de difficultés, il y a tellement de choses misérables, que vous n'êtes pas des créatures de Dieu? J'espère que non. Je vous invite à prier. Père Céleste, oh tu es un Dieu merveilleux. Nous l'avons vu ce matin. Nous avons revu ce magnifique endroit où tu as créé la terre. Cette époque magique où tu as pris le temps de considérer ton œuvre et de dire que cela était très bon. Et nous avons commencé notre réflexion en disant que nous sommes des créatures merveilleuses, non pas à cause de nous, mais à cause de toi. Parce que tu es notre créateur. Parce que tu nous as créés parfaits à ton image. Alors Père, ce matin, j'aimerais m'adresser déjà à tous ceux qui souffrent. Tous ceux qui peut-être au travers de leurs maladies, de leurs attaques, oublient parfois que tu les as beaucoup créés, que tu es celui qui prend soin, celui qui est le grand médecin, celui qui même au travers de leurs souffrances se tient à leur côté. Et j'aimerais Seigneur que tu les bénisses, que ce matin tu réinstaures, revisites ton image. Qu'ils puissent se voir non plus en se considérant eux-mêmes, mais en te considérant toi. Et puis, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui, aujourd'hui, ont peut-être pris conscience qu'ils sont créés à l'image de Dieu et que Dieu veut avoir ce contact avec eux. Ceux qui peut-être n'ont jamais osé avouer qu'ils s'interrogeaient, mais qu'ils n'arrivaient pas au point de t'appeler papa. Alors ce matin, c'est à cela que je m'adresse. Si vous êtes dans cette salle et que vous dites « Mais ce qui a été dévoilé ce matin, si c'est vrai, alors ?» Alors je veux avoir relation avec mon Créateur. Alors je veux vivre comme lui m'a créé, selon ses attentes, selon ses fonctions. S'il y a quelqu'un ce matin qui a pris conscience qu'il est une œuvre merveilleuse et qu'il aimerait avoir une relation avec son Père, avec son Créateur. Alors je lui demande, tout simplement, là où il est, il lève la main et dit « Oui, ce matin, j'ai pris conscience que mon Créateur, c'était Dieu, que je n'étais pas un déchet de la société, un ovni, un truc insignifiant dont on pouvait disposer. » mais une créature merveilleuse. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui aimerait prendre la main de son Père? Quelqu'un qui aimerait dire à Dieu, oui, que Dieu vous bénisse? Amen. Oui, 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 que Dieu vous bénisse. Dieu ce matin rappelle qu'il nous aime d'une manière incroyable. Qu'il prend soin, qu'il régénère, qu'il sauve. Y a-t-il encore quelqu'un ce matin qui aimerait juste prendre la main de Dieu et de dire « Aujourd'hui, papa, je rentre dans ta maison. Tu deviens mon père. Je ne suis plus une création humaine, mais une création céleste. Une dernière fois, y a-t-il quelqu'un qui aimerait saisir l'occasion? Eh bien, Seigneur, je te prie pour ces trois personnes qui ont levé la main, qui aujourd'hui ont pris conscience que c'est toi qui les avais créés, que c'est toi qui les aimais, que c'est toi qui en prenais soin. Et je te demande vraiment de les bénir, de leur permettre de valider, Seigneur, cette nouvelle identité, de vraiment prendre le temps d'affermir toutes ces choses, de grandir, de s'identifier, Seigneur, et de s'identifier à leur nouvelle famille. Parce que, Seigneur, tu as fait de nous des frères et sœurs, et comme Jésus l'a dit, mes frères et mes sœurs sont ceux qui font ta volonté. Alors, Seigneur, aide-nous à les accueillir dignement, Seigneur, comme tes enfants, et aide-nous aussi à les accompagner pour qu'ils puissent découvrir pas à pas le chemin sur lequel tu veux qu'ils marchent. Au nom de Jésus-Christ. Amen.